France Inter.
Le projet, je pense que le projet est bien accueilli. On aurait en fait 3-4 mois pendant lesquels il y aura beaucoup moins d'activités, puisque c'est les mois pendant lesquels on va mettre en place l'outil.
Une fois qu'il
est en place, on peut fabriquer 1200 obus à l'heure, c'est 25 000 par jour. Il y a une demande mondiale qui est très importante, à nous de capitaliser sur cette demande, et puis ensuite, on recréera davantage d'emplois.
Hier, c'est le patron d'Europlasma, Jérôme Garnache-Creuillot, qui reprend la fonderie de Bretagne, 266 emplois sauvegardés, une usine du secteur automobile que le nouveau propriétaire veut donc faire pivoter vers l'armement. Alors bien sûr, on connaît la fragilité de ce repreneur, les grandes interrogations aussi sur son mode de financement. Disons qu'Europlasma, c'est un pari, c'était aussi le seul candidat. Avec ArcelorMittal, voilà une autre envergure. Deuxième sidérurgiste mondial, mais mercredi, 600 suppressions de postes annoncées. Florange, par exemple, concernée, l'histoire se répète. Alors à gauche, mais également à droite, des appels à la nationalisation, solution extrême, mais pas si rare. On se souvient autour de cette table du sauvetage de General Motors par Obama à la fin des années 2000. En France, en 2014, c'est l'État qui est entré au capital de PSA et qui a ainsi permis le succès de Stellantis. La règle générale, ça serait plutôt de sauver les actifs stratégiques et pas les canards boiteux, et aussi plutôt quand les entreprises appellent au secours. Mais il y a des exceptions. Au Royaume-Uni, c'est bien grâce à un coup de force du gouvernement face aux propriétaires chinois que les deux derniers hauts fourneaux du pays ne seront pas fermés. Ce qui ne résout cependant pas les problèmes existentiels qui touchent la sidérurgie et l'automobile européenne. L'énergie est plus chère chez nous qu'aux États-Unis. La main-d'œuvre est plus chère chez nous qu'en Chine. Voilà le souci, l'Europe prise en sandwich.
On n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd sur France Inter.
Bienvenue dans votre magazine de l'économie. Toute l'équipe est là pour vous accueillir dans cette grande conversation. Valentin Pérez qui prépare l'émission à mes côtés. Notre chasseur de son Joseph Ascal. Les réalisateurs Étienne Bertin et Mathias Volant. Marie Potier signe les mix. Et c'est une longue liste, une grosse équipe. Loïs Moreau et Frédéric Kieffer nous mettent en onde ce matin. Le président de la Confédération des petites et moyennes entreprises est notre invité, qu'espérait de l'autre conclave, celui des retraites. Comment doivent se répartir les efforts pour faire baisser le déficit? Et autre question, est-ce que les patrons français manquent de patriotisme? Les réponses d'Amir Reza Tofighi dans ce studio vers 9h40. Pour économiser, il est souvent question de coupes, et c'est vrai aussi pour les dépenses d'assurance maladie, mais certaines entreprises, certains territoires font désormais le choix de la prévention. Prévenir plutôt que guérir, un début de déclic peut-être. Vous entendrez le reportage de Timothée David. Juste avant 10h, pour bien entamer le week-end, nous prendrons les conseils lecture de Christian Chavagneux. Bonjour Christian.
Bonjour Alexandra, bonjour à toutes et à tous.
Alors ce samedi, vous nous faites voyager.
Alors je vous propose un voyage dans l'espace-temps, dans l'espace avec ceux qui visent les étoiles pour faire de l'argent et dans le passé avec ceux qui font notre histoire économique et sociale.
On vous retrouve en fin d'émission pour l'écho à la page. Tout de suite c'est l'actu chaude avec nos débatteurs. Ma consoeur du Financial Times, Leïla Aboud. Hello Leïla.
Salut Alexandra.
Vous êtes la chef du bureau de Paris du FT. Et Eric Heyer, le directeur du département analyse et prévision de l'OFCE. Salut Eric.
Bonjour Alexandra, bonjour à tous.
L'OFCE, c'est toujours le centre de recherche en économie de Sciences Po. Ce matin, ce qui nous occupe, ça sera la question des monnaies. Pour la première fois depuis 80 ans, la suprématie du dollar n'est plus si certaine. La monnaie américaine vacille sous l'effet de la politique de Donald Trump. Est-ce durable? Est-ce une bonne ou une mauvaise nouvelle pour nous? L'euro peut-il en profiter? C'est le débat.
La chute du roi dollar, la monnaie américaine plonge à son tour.
Les investisseurs sont déboussolés, le dollar chute face à l'euro, faut-il s'en réjouir?
Le dollar est la devise de réserve internationale depuis des décennies.
Roland Lescure.
Donald Trump, il a un agenda très fort, c'est de faire baisser massivement le dollar américain.
Vice-président de l'Assemblée nationale.
Là aussi, c'est une opportunité pour l'Europe. On a une devise, l'euro, heureusement qu'on l'a faite en passant, certains étaient contre. Il faut que cette devise devienne la nouvelle devise de réserve internationale.
Christine Lagarde, présidente de la Banque Centrale Européenne.
Dans l'environnement géopolitique actuel, il est encore plus urgent que les politiques fiscales et structurelles rendent l'économie de la zone euro plus productive, compétitive et résiliente. Il est également important de mettre en place rapidement le cadre législatif pour préparer le terrain à l'introduction potentielle de l'euro numérique.
La nouvelle cible de Donald Trump s'appelle Jérôme Powell, le président de la Banque centrale américaine, la Fed, comme on l'appelle.
Cela commence avec un message sur son réseau social. Il est temps que son mandat prenne fin. Après les annonces du président de la Fed concernant l'économie américaine sur l'inflation et l'emploi.
La plupart du temps, quand l'économie est faible, l'inflation est basse et le chômage élevé. Dans les deux cas, il faut abaisser les taux d'intérêt pour soutenir l'activité et vice-versa.
Jérôme Powell, président de la Réserve fédérale des États-Unis.
Mais le choc que nous subissons, les impulsions que nous ressentons sont celles d'un chômage et d'une inflation plus élevée.
J'aimerais voir Powell un peu plus actif en ce qui concerne la baisse des taux d'intérêt. C'est le moment idéal pour les baisser.
Donald Trump, président des États-Unis.
S'il ne baisse pas les taux d'intérêt, est-ce que c'est la fin ? Non, mais ça serait le bon moment. Ça aurait pu et dû être fait plus tôt, mais non, je n'ai pas l'intention de le renvoyer.
Le dollar, l'euro, le yuan, le bitcoin même. On va faire la photo écho d'abord de la chute du dollar, Eric Heyer, avec vous. Depuis l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est la dégringolade ?
Alors, c'est la dégringolade. Ça a perdu 10% à peu près, hein, entre 9 et 10% selon les monnaies. Donc oui, on peut considérer que c'est une chute, mais alors attention, on peut, au lieu de faire la photo, prendre un peu de recul et faire un petit court-métrage et partir non pas du 20 janvier, son arrivée, mais du 5 novembre. Il a quand même été élu le 5 novembre. Et là, ben, ça bouge un peu parce que dans un premier temps, au cours des deux premiers mois, ça a fortement augmenté le dollar. Et donc, il a pris à peu près 6% contre toutes les monnaies. Et donc, vous voyez, c'était intéressant parce qu'à ce moment-là, on pensait que Donald Trump allait faire plutôt une politique pro-business. Tout le monde était d'accord et donc le dollar allait encore surperformer. Et puis ensuite, en arrivant le 20 janvier, il signe des executive orders qui ne plaisent pas du tout, notamment sur les droits de douane. Et là, ça commence à chuter. Mais voyez, avant le Liberation Day, le 2 avril, on était revenu exactement au niveau du 5 novembre. Donc le dollar n'avait pas du tout bougé. Et s'il baisse, c'est que à partir finalement du 2 avril et il baisse que de 4,8%. Vous voyez, ce n'est pas une chute. Et même faisons un long métrage. C'est-à-dire que si on regarde depuis les 10 dernières années, quelle est la valeur ? Aujourd'hui, la valeur du dollar, c'est
1,14 face à l'euro.
Face à l'euro. Combien était la valeur de ce euro-dollar au cours des 10 dernières années ? 1,12. Bon, c'est pareil. Vous voyez, ça a fluctué entre la parité et 1,20. Et si on fait encore un plus long métrage, si on fait les 10 années précédentes, c'est-à-dire 2004-2014, quelle était la valeur ? 1,35. Donc vous voyez, là, on renverse complètement la logique. C'est pas le dollar qui s'est complètement déprécié. Au contraire, par rapport à 2014, il s'est au contraire fortement apprécié, le dollar, de plus de 16%, voire même de plus de 30% si on prend le pic. Donc vous voyez, c'est ça qui explique aussi la politique de Donald Trump. Il veut revenir à la valeur du dollar, mais de l'époque 2004-2014, là où il y avait de l'industrie, là où il n'y avait pas eu les délocalisations. C'est peut-être ça, en fait, son objectif.
Le dollar, c'est une monnaie importante. Leïla, je me tourne vers vous. On va faire un petit paragraphe de référence sur le dollar, une monnaie qui sert au commerce, qui sert aux réserves des banques centrales.
Oui, exactement. C'est quelque chose que peut-être les Américains eux-mêmes ne comprennent pas bien. Il y a une phrase très emblématique de tout ça, c'était Valéry Giscard d'Estaing qui a dit que le dollar donnait aux États-Unis un privilège exorbitant. Et je pense que c'est tout à fait vrai, c'est vrai aujourd'hui, le dollar, en gros, c'est la monnaie que tous les autres pays détiennent. C'est considéré, les bons du Trésor américain sont considérés comme l'investissement le plus sûr au monde. Il est aussi utilisé pour plein de transactions dans le commerce international, le pétrole, plein de matières premières. C'est un peu l'huile dans la machine de l'économie mondiale, même si ce n'est pas toujours visible.
Et c'est une monnaie de confiance. On se dit, si on achète du dollar, si on
on a du dollar, ça va bien.
Oui, et en plus, c'est un peu étrange de voir ça comme un problème. Et là, on voit un peu dans l'administration Trump qu'ils veulent un peu tout et son contraire. Ils veulent un dollar faible pour augmenter l'industrie manufacturière, mais ils veulent aussi pas trop perdre ce privilège exorbitant. Mmh. Je ne sais pas si ces deux objectifs sont vraiment réalisables ou pas. Mmh. Et si on parle, un autre aspect de ça, si le dollar est déprécié, ça crée des gagnants et des perdants, un peu dans chaque secteur de l'économie. Et on va voir aussi aux États-Unis et en Europe, les effets ne sont pas du tout pareils.
Allez-y.
Alors du coup, si je suis consommateur aux États-Unis, les prix peuvent monter à cause de l'inflation. Et je ne peux pas voyager en Europe ou ailleurs comme je pouvais voyager avant parce que le dollar est plus faible. Ce n'est peut-être pas super important, mais c'est vrai. Et pour les entreprises, par exemple, qui exportent des États-Unis ailleurs, c'est très bien, parce qu'ils sont plus compétitifs. Si on prend les choses de l'Europe, c'est aussi du plus, du gagnant et du perdant. Une entreprise qui exporte des voitures aux États-Unis, les Mercedes ou les sacs de luxe, c'est pas super bien pour eux, parce qu'ils vont coûter plus cher. Pour les touristes européennes qui veulent aller aux États-Unis, c'est très bien. On peut acheter plus de choses quand on va à New York. Du coup, il faut vraiment comprendre que c'est des balançoires un peu dans tous les sens. Et Trump, il prend ça un peu de son point de vue, ce qui est normal, pour essayer de revitaliser l'industrie manufacturière et aussi juste d'avoir ce qu'il voit comme une économie plus dynamique. Mmh.
Éric, hier, cette semaine, on a eu un tweet de celui qui a été quand même à Bercy pendant 7 ans, Bruno Le Maire, qui dit « Après le dollar, l'heure de l'euro ». Qu'en pensez-vous ? Qu'est-ce que ça veut dire quand il dit ça ?
Eh ben, que ce privilège exorbitant pourrait aller maintenant vers l'euro. C'est-à-dire qu'effectivement, le privilège, c'est ce qui a été rappelé. C'est-à-dire que ça vous permet d'avoir, finalement, de vivre au-dessus de vos moyens, d'avoir du déficit, de la dette, et c'est pas grave, puisque c'est financé par l'extérieur. Mais attention, il y a le paradoxe de Triffin, de 1960, qui disait, attention, c'est dangereux de toujours vouloir vivre au-dessus de son moyen, surtout s'il y a une perte de confiance, et que plus personne n'en veut. Donc on se dit, allez, il va falloir que l'euro remplace le dollar. Est-ce que la dédollarisation existe déjà ? Oui et non, c'est-à-dire oui, la place du dollar est de moins en moins forte, mais vous voyez, ça reste quand même la monnaie
dans
dominante.
Dans les échanges, vous voulez
dans
dire
dans les échanges, vous voyez, ça, ou même dans les réserves. Dans les réserves, ça
des
représentait.
Banques
les banques centrales, ça représentait plus de 70% dans les années 2000. Maintenant, c'est 58%. Donc ça baisse. Est-ce que c'est l'euro qui a pris la place? Non. Ça reste aux alentours de 20-25%. Ça n'augmente pas. C'est plutôt les petites monnaies qui arrivent. Donc il y a le yuan, qui est une grosse monnaie, mais qui arrive petit
la
à petit.
Chinoise.
La monnaie chinoise. Mais il y a encore du yen, il y a encore. C'est un peu multi-monnaie. Et donc, vous voyez, si on veut y arriver, et ça serait important, et ça, je pense que Bruno Le Maire a raison, mais pour y arriver, pourquoi on ne décolle pas en euros? C'est qu'on n'a pas un marché qui est assez profond et assez liquide. C'est-à-dire que pour fournir cette monnaie de référence, eh ben, il faut fournir beaucoup eh ben, de dollars, en l'occurrence, et ça serait beaucoup d'euros. Comment on fournit beaucoup d'euros? Eh ben, c'est en ayant une dette publique européenne. On n'a pas de dette publique européenne. On a des dettes publiques européennes qui n'ont pas exactement la même sûreté. Et donc, il faudrait qu'on crée des eurobonds, il faudrait qu'on crée de la dette européenne, c'est-à-dire que ce ne soit pas l'Allemagne qui s'endette, ou la France ou la Grèce, mais bien l'Europe. Et il faudrait ensuite qu'on arrive à unifier les marchés de capitaux pour que ça soit effectivement profond.
Plus attractif pour les investisseurs, si on doit simplifier au maximum ce que vous dites, c'est pour que les investisseurs viennent plus en masse chez nous.
Exactement.
Voilà. Après, on parle de ça depuis plus que 10 ans, le fameux marché de capitaux. Je me souviens au moins de 12 000 fois que Bruno Le Maire a parlé de ça, et ça ne change pas vraiment. Allez, peut-être on va entrer dans une période où il y a une telle crise que l'Europe va vraiment avancer. Je ne sais pas. J'ai oublié un truc sur le privilège exorbitant, il est politique aussi pour les États-Unis. Ils peuvent infliger des sanctions sur leurs ennemis, comme ils ont fait sur la Russie et l'Iran, parce qu'ils peuvent carrément juste les enlever la capacité d'utiliser le système bancaire international. C'est un outil de pouvoir très très puissant. Alors, je vois mal comment Trump va vouloir vraiment lâcher ça. Mmh.
Mais vous pouvez ne pas le lâcher complètement. Vous voyez, encore une fois, la photographie qu'on a fait au début d'émission montre bien que dans les années 2004-2014, le dollar était encore plus la monnaie de référence, mais ne valait que 1,35. Donc du coup, vous pouvez dévaluer quand même cette monnaie de référence tout en restant cette monnaie de référence. Donc je pense que c'est ce que veut Trump, c'est rester la monnaie de référence, mais avec une valeur beaucoup plus faible. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il faut bien se le dire, c'est qu'une partie, les Européens ne consomment pas assez. Il y a des excédents gigantesques du commerce extérieur. Et donc, en fait, ce qu'indique Trump quelque part dans sa volonté, ou Stéphane Miran, son conseiller, c'est qu'il faudrait que les Européens consomment plus, en fait, investissent plus et investissent dans des biens américains, et que les Chinois consomment plus. Et que du coup, de l'autre côté, les Américains consomment moins. Donc c'est un rééquilibrage, et dans ce rééquilibrage, ben, la monnaie et la valeur de cette monnaie relative est très importante, et ça, on peut l'entendre. Mais là, vous voyez, dans la baisse aujourd'hui, on ne sait pas si c'est lié au fait que ça y est, les marchés ont compris qu'il fallait aller vers 1,35.
C'est le chaos,
petit à petit.
La baisse, c'est le chaos.
Ou
mais
alors,
si on,
est-ce
on baisse
que c'est...
avec des techniques de chaos,
ou est-ce que c'est
ça
le chaos,
ça n'est pas une bonne politique.
Ah mais voilà, c'est ça. C'est, est-ce que c'est, les marchés ont bien compris la trajectoire, 1,35, ou est-ce qu'ils ont perdu complètement confiance parce que c'est imprévisible ce que nous fait Trump? Et donc, dès que c'est imprévisible, on perd la confiance. Et là,
c'est
donc, on se dit...
À mon avis, c'est ça.
Ah, oui, c'est ça.
Ça semble être la perte de confiance.
Alors
pour l'Amérique,
là, ça serait un peu plus grave.
La fuite.
Parce qu'on ne sait plus jusqu'où ça va. Mais encore une fois, on n'est qu'à 1,14. Mmh. Donc, on est encore à un niveau extrêmement élevé.
Le fait qu'on a même cette conversation entre nous aujourd'hui sur l'idée que la monnaie de réserve va peut-être basculer, c'est quand même une conversation un peu étrange. On ne serait jamais posé cette question il y a 2-3 ans. Mmh. Alors déjà... Il a créé Donald Trump de l'incertitude. Mmh. Et bon, ça ne va peut-être pas aller à son terme. Il va aussi peut-être juste arrêter de faire n'importe quoi. on va revenir un peu à un état normal des choses.
Éric Heyer, lorsque Donald Trump menace la Banque Centrale Américaine, est-ce que c'est aussi, ou plutôt son président, Jerome Powell, est-ce que c'est aussi une façon de faire baisser le dollar ?
Oui, bien entendu. Mais alors ça, c'est pas nouveau. Vous voyez, Trump numéro 1. Donc, souvenez-vous d'un tweet d'août 2019. Ça s'appelait encore un tweet à l'époque. Vous voyez, Donald Trump a dit, vous voyez, la seule question est, qui est l'ennemi numéro 1 des États-Unis ? Xi Jinping ou Jérôme Powell. C'était déjà à l'époque. C'est-à-dire qu'il trouvait...
Alors qu'il l'a nommé.
Alors qu'il avait le nommé quelques années auparavant. Et donc, son idée, c'était de dire, là, aujourd'hui, et c'était encore ça, le dollar est surévalué. Donc, pour dévaluer le dollar, il faut baisser les taux d'intérêt. En baissant les taux d'intérêt, vous rendez moins attractif l'achat de dollars. Et donc, du coup, on va aller sur l'euro ou sur d'autres monnaies. Donc, le dollar va baisser. Il le souhaitait. Et donc, il disait, c'est la seule façon de rééquilibrer les balances commerciales. Puis il s'est aperçu que finalement, il n'avait pas la main sur la politique monétaire, que Jerome Powell était indépendant. Et donc, il a dit, ah, si je n'ai pas la main sur la politique monétaire, j'ai la main sur quoi ? Sur les tarifs douaniers, je vais faire les tarifs douaniers.
Je pense que c'est différent cette fois quand même. Parce que le deuxième mandat de Trump est beaucoup plus agressif. Ils sont en train de passer outre sur plein de normes dans le gouvernement et aussi les lois. Du coup, c'est pas la même chose qu'on a dit aujourd'hui que Jerome Powell est un loser et il faut qu'il dégage. C'est pas du tout la même chose. Après, il y a un exemple qui vous montre ça, c'est qu'il y a une affaire devant la Cour suprême américaine en ce moment qui est un challenge que deux dirigeants des agences indépendants aux États-Unis, ils ont fait un recours parce qu'ils ont été virés par l'administration Trump. Mais ils étaient au sein des agences indépendantes. Ils sont beaucoup plus bas dans l'échelle que Jerome Powell.
Oui, voilà.
Mais ça, ça va être un test. Si la Cour suprême donne un signal pour dire, OK, c'est pas grave, vous pouvez virer ces mecs, les marchés vont flipper. Parce que ça peut aussi être une arme contre Powell.
Donc ça peut être une raison, trouver une raison pour virer
ça change un peu le cadre juridique.
Pourrait, effectivement, ouais. on pensait que c'était impossible de virer un banquier central, ouais. Mais avec Trump, tout est possible. Et donc il faut se méfier, parce que là, pour le coup, on serait dans la logique chaos. Et là, ça serait effectivement un dollar qui dévisserait, non pas parce qu'on a envie de rééquilibrer les échanges, mais parce qu'on n'a plus du tout confiance dans tous les actifs américains, c'est-à-dire dans leur monnaie, mais aussi dans leur dette publique, c'est-à-dire que là, les taux d'intérêt sur la dette américaine exploseraient, et les bourses aussi, qui sont les actifs, dévisseraient. Et donc là, ça serait vraiment la catastrophe pour les États-Unis.
Éric Heyer et Leïla Aboud, ils ont fait le débat dans N'arrête pas l'écho.
Et déindustrialiseront
une
crise.
Maintenant qu'on y a cette économie.
Cette semaine, nous avons aussi eu les prévisions du FMI pour les économies de la planète. Alors, toutes les évolutions des droits de douane américains n'ont pas encore été prises en compte. Mais il y a deux choses à retenir de ces prévisions. Le premier point, c'est qu'il n'y a pas encore de récession prévisible. Le second point, en revanche, c'est que le coup de frein, il est net, surtout pour les États-Unis, à un moindre niveau en zone euro. Mais alors, en zone euro, il y a quand même une exception, c'est l'Espagne. Et Pedro Sánchez l'avait bien dit.
Tengo que decir que la economía no va como una moto, ¿no? Si me permiten el énfasis, la economía española va como un cohete.
L'économie espagnole, elle ne va pas aussi vite qu'une moto, hein, si vous me permettez. L'économie espagnole, elle fonce comme une fusée. C'est le Premier ministre espagnol qui se félicitait déjà l'année dernière. Bonjour Mathieu de Taillac.
Bonjour Alexandra et bonjour à tout le monde.
Vous êtes correspondant de France Inter en Espagne. Alors qui aurait prédit cette renaissance de l'économie espagnole quand ça n'allait pas bien du tout au début des années 2010? À présent, on parle même du miracle espagnol. Mais Mathieu, est-ce que ce miracle-là, il s'explique?
En tout cas, on trouve des économistes pour nous l'expliquer. Alors, d'abord, il y a le tourisme, hein, ça c'est pas nouveau, mais ça continue de porter le pays. En 2024, nouveau record, le secteur a apporté 208 milliards d'euros. C'est 13% du PIB espagnol et surtout c'est un quart de cette croissance qui fait des jaloux en Europe et dans le monde. Mais il n'y a pas que le tourisme qui va bien en Espagne. En progrès aussi, les exportations des services non touristiques. Alors c'est un peu fourre-tout, hein, ça va des services financiers jusqu'à des travaux d'ingénierie ou du consulting. Et puis dernier élément important, revendiqué par le gouvernement, c'est l'immigration. En 2024, il y a eu 468 000 emplois créés en Espagne. Eh bien, les travailleurs immigrés en ont occupé 88%. Ce sont des gens qui consomment, bien sûr, et qui cotisent, alors que la démographie autochtone est en berne.
Et si on parle des finances publiques, alors là, les comptes espagnols, ils ne sont pas assainis, mais ils sont au moins meilleurs que chez nous. Une dette à 102% du PIB, un déficit à 2,8%. Ces résultats-là, Mathieu, comment est-ce que vous y êtes arrivé? Est-ce qu'il y a eu une cure d'austérité en Espagne comme au Portugal?
Non, l'austérité, il n'y en a pas eu depuis la dernière crise financière au début des années 2010. Cette fois-ci, le gouvernement de gauche a tout fait pour l'éviter. Ce qui explique la relative maîtrise des comptes, c'est plutôt et surtout la croissance et aussi l'inflation. Prenons par exemple l'impôt sur le revenu. C'est le moment des déclarations en Espagne comme en France. Eh bien, selon la Banque d'Espagne, entre 2019 et 2023, l'inflation explique à peu près la moitié de l'augmentation des recettes fiscales issues de cet impôt. Et l'autre moitié, ben, c'est la croissance. L'assiette est plus large, donc les recettes aussi.
Néanmoins, Mathieu, les Espagnols, ils ont de vraies raisons de ne pas trouver la situation économique idéale.
Oui, il y a des problèmes économiques et sociaux sérieux. Le plus criant d'entre eux, c'est l'accès au logement. Il y a un profond déséquilibre entre l'offre et la demande. Et il y a une frontière qui se creuse entre ceux qui parviennent à acheter et ceux qui sont condamnés à payer un loyer et à espérer qu'il n'augmente pas trop à la fin du bail. Car les loyers ont augmenté 80% en 10 ans, ils ont quasiment doublé. C'est une urgence nationale. Le gouvernement multiplie les annonces de construction ou d'aide à l'achat, mais les résultats sont pas encore là. C'est le gros point noir qui assombrit toutes les autres bonnes nouvelles économiques en Espagne.
Mathieu de Taillac avec nous de Madrid. À 9h34 sur France Inter, dans moins de 10 minutes, le président de la CPME, Amir Reza Tofighi, sera notre invité. Des questions sur l'état de santé des entreprises dans le contexte de guerre commerciale et puis des questions sur le redressement des finances publiques en France. Qui doit porter le fardeau? Le gouvernement, il a annoncé l'objectif pour 2026, faire baisser le déficit et pour cela faire un effort de 40 milliards d'euros. Les dépenses sociales sont particulièrement scrutées et celles qui inquiètent plus encore que les retraites, ce sont les dépenses de l'assurance maladie. Comment faire 20 milliards d'économies d'ici 2029? Il y a quelques jours, la Cour des comptes a ouvert 15 pistes. Alors ça va de la lutte contre les fraudes au remboursement selon les revenus, en passant par le serrage de vis sur les transports sanitaires. Et puis, il y a cette faiblesse française sur laquelle nous devrions travailler si on veut dépenser moins, c'est la prévention. La prévention, vous allez l'entendre, certaines entreprises s'en préoccupent. Certains territoires également. Alors ce matin, direction le Tarn-et-Garonne, nous suivons notre reporter Timothée David à Montauban, au cœur d'une opération de prévention dans un des quartiers de la ville. Bienvenue au Village Santé.
On est à midi, tout ça, on est Village Santé.
On vous repère bien, ça.
Vous sentez par les bandits?
Bah, de même.
Bienvenue.
De même, merci.
Donc ici, on a un stand sur Mon Espace Santé.
Bonjour.
Avec Camille.
Et nous, aujourd'hui, là, on sensibilise sur l'espace santé, donc le carnet de santé numérique, qui a été ouvert pour tout le monde. On sensibilise les usagers pour qu'ils l'activent, qu'ils soient un peu acteurs de leur santé. En cas d'urgence, on n'a pas forcément notre carnet de santé sur nous. Et là, ça permet aux professionnels de pouvoir retrouver certaines informations importantes.
Bah, mon prénom, c'est Marie-Hélène.
Vous ignoriez que ça existait, cet espace santé en ligne ?
En fait, je savais que ça existait, mais je ne savais pas qu'on pouvait avoir un espace personnel, en fait. Je ne savais pas que, comme elle expliquait la dame, on peut mettre tout ce qui est nos allergies, tout ça, quelque chose d'important qui peut justement nous aider à gagner du temps, comme elle a dit.
Ah, c'est l'espace vaccination, ici.
Oui. Si jamais on a quelqu'un qui a besoin soit d'être vacciné, soit de faire un rappel, il passe derrière les claustras dans les espaces confidentiels.
Je m'appelle Marie, je suis infirmière de formation et je suis coordinatrice du contrat local de santé du Grand Montauban. Le contrat local de santé est un dispositif coporté par la collectivité et l'agence régionale de santé. Il est signé pour 5 ans et il a l'objectif stratégique de réduire les inégalités d'accès à la santé. Le contrat local de santé doit, en fonction des territoires, mener des actions bien spécifiques. Aujourd'hui, on est sur un quartier prioritaire de la ville, un QPV. Des personnes qui arrivent aussi de pays dans lesquels la prévention est un concept qui n'existe pas. Il faut aussi amener une certaine culture de la prévention à ces publics. Et puis, quand on ira sur les communes du Grand Montauban, le dispositif s'adaptera aux besoins locaux, notamment le maintien à domicile des seniors. On attend évidemment qu'en partant du village santé, les habitants prennent vraiment conscience qu'il est possible de prendre soin de soi, de rester en bonne santé. Et c'est tout l'enjeu de la prévention.
Chaque année, en France, on dépense autour de 7,5 milliards d'euros pour la prévention en santé. Un chiffre en baisse depuis plus de 10 ans. L'assurance maladie prend l'essentiel en charge, soit 45% du total. 28% sont de la responsabilité de l'État et des collectivités territoriales comme Montauban. Le reste revient aux entreprises privées. Et certaines tentent d'ailleurs d'innover. Chez Aéroports de Paris, par exemple, depuis quelques jours, les salariés se voient proposer un bilan de santé complet, sans aucun reste à charge.
Aéroport Charles de Gaulle 1, terminaux 1 et 3.
Je vous emmène maintenant au centre de prévention d'Oxamed de Roissy. Près de 1000 personnes par an ont vocation à y suivre un parcours de 2 heures, accompagné d'une infirmière, avant un bilan avec un médecin en téléconsultation. C'est là que je rencontre Michel, un salarié d'une cinquantaine d'années qui sort de son check-up.
Je suis un mauvais malade et un mauvais patient. Donc je ne prends pas mes rendez-vous et je ne fais pas les choses comme elles devraient être faites. C'était effectivement l'occasion de faire tout d'un coup. Plutôt que d'avoir à prendre des rendez-vous éparpillés avec des temps d'attente, je ne parle même pas des coûts qui peuvent être impliqués par toutes ces visites, mais c'était vraiment l'avantage de pouvoir faire sur mon lieu de travail, en aménageant mon temps, cette visite-là, et qui est effectivement très complète.
On peut effectuer des tests du coup de vision, d'audio. On a également la caméra dentaire avec différents filtres qui permettent de détecter le tartre, les caries. On a un ECG aussi qui est connecté. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a un dermatoscope qui est connecté également.
Donc check-up voilà, complet.
Check-up complet, 30 minutes par salle.
J'ai une liste de courses qui m'a été donnée par le médecin et j'ai des examens complémentaires à faire. Et c'est l'autre intérêt, je pense, de la démarche, c'est qu'au-delà du simple contrôle, le médecin vous redonne un rendez-vous pour vérifier avec vous, pour voir avec vous tous les examens complémentaires qu'il vous a demandé de faire. Quelque part, ça vous incite à faire ces examens et à revenir voir le médecin et à échanger avec lui de nouveau pour voir s'il y a des choses à faire ou pas.
On est maintenant avec Justine Coutard, directrice générale déléguée du groupe ADP, Aéroports de Paris. Quel avantage le groupe retire à financer ce bilan de santé complet à ses salariés ?
Alors c'est effectivement un coût qu'on assume pleinement. Pour que l'entreprise fonctionne de la meilleure des manières, on a besoin d'avoir des salariés qui sont motivés, qui sont en pleine forme et aussi qui peuvent se libérer d'une partie de leur charge mentale. Et ça peut être une part importante de nos préoccupations du quotidien, de se dire qu'on aurait besoin de prendre un rendez-vous chez le spécialiste qu'on repousse depuis plusieurs années, de se dire qu'on a des questions qui nous taraudent mais qu'on n'a jamais vraiment le temps d'aller creuser. Et on se dit que si l'entreprise peut apporter un coup de pouce à ses salariés de cette manière, en leur facilitant la vie, on remplit aussi notre rôle pour assurer le bien-être de nos collaborateurs au travail et donc aussi la garantie de leur engagement et de leur efficacité au quotidien.
La santé, je trouve que, vu l'ampleur du déficit de la Sécu, bah, c'est pas idiot de se dire que les entreprises, elles peuvent être des relais, elles peuvent aider à soulager une partie de la charge de service public. Enfin, c'est une autre manière de mettre à contribution les entreprises, qu'ils ne soient pas que financières. Ça peut être aussi plus efficace de nous demander d'être des relais de service public, en quelque sorte. Et c'est ce qu'on fait, là.
Guérir plutôt que prévenir, cette faiblesse du système de santé français est enracinée de longue date. C'est ce que m'explique Jacques Marceau, président du Conseil scientifique et expert santé de la Fondation Concorde, un think tank libéral. Je le retrouve dans son bureau, à Boulogne-Billancourt.
Le fait que la prévention soit le parent pauvre de notre système de santé puise ses origines assez loin. Ça remonte à la vision de la modernité qui est issue des Lumières et qui est une vision qui tente à comparer le corps à une merveilleuse mécanique, mais une mécanique quand même, où les différentes composantes de ce corps sont des éléments qui ne se parlent pas forcément entre eux. Cette vision mécaniste du corps, elle a présidé à l'organisation de nos systèmes de santé et elle a évacué de ce fait complètement la question de la prévention. Et en vérité, on n'a pas de système de santé, on a un système de soins.
De cette vision mécaniste du corps découle un mode de rémunération du personnel de santé qui n'est pas forcément le plus opportun. Et ça, des expériences récentes l'ont montré.
Alors effectivement, il y a une expérimentation qui s'appelle Équilibre, qui consiste à changer le mode d'organisation en donnant plus d'autonomie aux équipes d'infirmiers et infirmières sur le terrain, et puis également changer leur mode de rémunération. C'est-à-dire on ne les rémunère plus à l'acte, et on va rémunérer sur la base de temps passé. Alors ce qui est assez contre-intuitif, parce qu'on dit bah, ça va coûter une fortune, et puis les gens vont gruger, ça ne va pas marcher. Pas du tout. On a observé sur l'expérimentation qui porte quand même sur 80 infirmiers et 25 000 patients une économie pour la CNAM de 25%.
Et pourtant, sur les 20 milliards par an que cherche la Cour des comptes d'ici 2028, la prévention, ça ne représenterait que 400 millions.
Il y a un décalage temporel entre une décision politique en matière de prévention et les résultats. Il va falloir 4 à 5 ans pour les mesurer efficacement. Et donc pendant ces 4 à 5 ans, on va être dans une stratégie d'investissement. Les planètes sont alignées. Pourquoi ? La volonté politique, elle existe du fait de la nécessité économique pressante et du déficit de notre assurance maladie. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que les technologies existent. Le numérique est là. On a les moyens, avec la data, avec le diagnostic, de développer à grande échelle et au niveau industriel une politique de prévention. L'innovation existe également en termes de produits financiers, avec des contrats à impact social. Donc les planètes sont alignées, tout est là. Ce qu'il faut, c'est y aller.
Prévention en santé, est-ce l'heure du déclic ? C'était le reportage de Timothée David.
France Inter, on n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd.
Et l'invité dont n'arrête pas l'écho ce matin est le président de la Confédération des petites et moyennes entreprises. Bonjour et bienvenue, Ami Reza Tofighi.
Bonjour.
Dans le reportage qu'on a entendu ensemble, une des dirigeantes d'Aéroports de Paris estime que son entreprise qui finance la prévention, c'est une autre façon de participer à la réduction des déficits, une autre façon pour les entreprises d'être mises à contribution, comme des relais de services publics, dit-elle. Est-ce que ça vous parle ?
Bien sûr, mais c'est déjà ce que font beaucoup d'entreprises au quotidien. De la prévention, notamment pour justement limiter les arrêts de travail, limiter les accidents de travail, les arrêts maladie. Donc c'est déjà quelque chose que font beaucoup d'entreprises. Après, forcément, les PME, les TPE, elles n'ont pas les mêmes moyens que... Là, on parle d'ADP, donc Aéroports de Paris, donc c'est pas du tout la même taille d'entreprise. Mmh. Mais les entreprises, elles le font au quotidien aujourd'hui déjà.
Okay. Vous trouvez 40 milliards, ça c'est un peu le sujet, hein, quand je dis qui faut-il mettre à contribution. Le ministre de l'économie dit « nous ne souhaitons pas augmenter les impôts ni les charges des entreprises pour 2026 ». Est-ce que vous y croyez ?
J'ai envie d'y croire parce que on a quand même le taux de prélèvement obligatoire le plus élevé de l'Union européenne, donc 48%. À un moment donné, si on veut avoir une économie qui n'est pas en récession, parce qu'on l'a dit justement dans le reportage d'avant, pour qu'on puisse rembourser nos dettes, pour qu'on puisse avoir des recettes fiscales plus importantes, il faut aussi que l'économie se développe, que les entreprises se développent. Et donc, il faut arrêter de vouloir prélever encore plus, lorsqu'on est déjà les champions européens des taux de prélèvement. Donc oui, il est important aujourd'hui de sécuriser nos entreprises, de les protéger et pas de les taxer encore plus.
Alors, elles sont beaucoup prélevées. Il y a beaucoup de prélèvements, mais il y a aussi beaucoup d'aides aux entreprises. Hein, c'est ça le sujet. Est-ce qu'il faut revoir le périmètre des aides, des aides aux entreprises ?
En fait, ces aides aux entreprises, elles sont juste une compensation de tous les prélèvements qu'il y a. Si on prend par exemple les allègements de charges, aujourd'hui on nous dit souvent on a 80 milliards d'allègements de charges. Mais oui, parce qu'en fait on a 500 milliards de cotisations sur le travail aujourd'hui. Mmh. Et ces allègements de charges, pourquoi ils existent aujourd'hui? Parce qu'il y a un moment donné, les politiques ont considéré, à juste titre, que le coût du travail était tellement élevé qu'il était impossible de recruter à ces niveaux de salaire-là. Et donc, on a mis en place des allègements de charges aujourd'hui pour compenser le coût du travail qui était trop important. Donc oui, aujourd'hui, à un moment donné, s'il y a des baisses d'impôts drastiques, ben forcément, il y aura aussi les aides aux entreprises qui vont baisser. Mais les deux doivent aller ensemble.
Mais il y a eu des baisses d'impôts. Les allègements de coût du travail, c'était aussi parce qu'en effet, il y avait ces prélèvements. Mais ces dernières années, il y a eu la baisse de l'impôt sur les sociétés, il y a eu la baisse des impôts de production.
Oui, mais par exemple, si on prend la baisse des impôts de production, vous avez raison, ils ont baissé. On est encore deux fois la moyenne européenne. On est six fois par rapport au taux d'impôts de production en Allemagne. Mmh. Donc en fait, on est encore très très loin de nos concurrents. Si on prend le taux d'impôt sur les sociétés, on est juste arrivé au même niveau que l'Union européenne. Donc en gros, on était tellement loin qu'on a à peine rattrapé ce que font les autres pays. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est sur un marché unique ouvert, et je ne parle même pas de hors Union européenne, et donc on ne peut pas toujours être ceux qui taxent le plus, et en même temps être étonné qu'à un moment donné, les entreprises, bah, elles ne peuvent plus survivre en France.
Donc à un moment donné, il va bien falloir que quelqu'un paye la facture. Le grand débat cette semaine, c'est celui de la participation des retraités à l'effort budgétaire. Supprimer les 10% d'abattement d'impôt sur les revenus des retraités, il y a eu de nombreuses voix à droite pour s'élever contre cette piste. Vous, vous en dites quoi, la CPME ?
Il y a un rapport de la Cour des comptes qui est sorti il y a deux mois sur l'équilibre du régime des retraites. Et il met un point en avant, c'est que la France est une anomalie. Une anomalie dans l'Union européenne parce qu'on est le seul pays où les retraités ont un meilleur niveau de vie que les actifs. On est cette anomalie. Pour une raison très simple, c'est qu'à chaque fois qu'on demande des efforts, et on ne les demande pas aux retraités pour des raisons électorales. Et moi j'entends tous ceux qui n'arrêtent pas de dire qu'il faut une responsabilité budgétaire, mais dès qu'on demande d'avoir des efforts partagés, donc actifs et retraités, qui d'un coup disent que hors de question de toucher aux retraités, et ben moi je pense que c'est un manque de courage, pour des raisons électorales. Oui. Donc oui, aujourd'hui, par exemple, je vais vous donner un exemple tout simple, la réforme des retraites aujourd'hui, qui a fait couler autant d'encre aujourd'hui, alors qu'en parallèle, tout le gain de la réforme des retraites a été annulé par l'indexation des pensions de retraite qui a eu l'année dernière, deux fois supérieure à l'augmentation des salaires des travailleurs actifs. Et donc, toute la réforme des retraites a été annulée parce que on a augmenté les pensions de retraite de 6%, alors que les salariés n'avaient leur salaire moyen qui augmentait que 3%. Donc on a privilégié le niveau de vie des retraités par rapport aux actifs. Donc moi je dis pas qu'il faut prendre les retraités à la place des actifs, je dis juste qu'il faut partager les efforts. Et je comprends pas qu'aujourd'hui, le débat politique, à chaque fois, et met tout sur les actifs, et on élimine l'effort des retraités pour des simples raisons électorales. Moi, je pense que c'est un manque de courage politique.
Vous trouvez qu'ils ne sont pas courageux, les politiques ?
Bah, sur ce sujet-là, oui, ils ne sont pas courageux.
Alors, le conclave des retraites, vous êtes en plein dedans. Hein. Il s'agit de revoir, vous l'avez dit, la réforme de 2023. Il vous reste un mois avec les partenaires sociaux, mais encore pas tous, ils ne sont pas tous autour de la table, pour trouver un accord. Est-ce que vous pouvez y arriver ?
Bien sûr, et je pense qu'on va y arriver. Pour une raison très simple aujourd'hui, on a 350 milliards de déficits cumulés dans les 20 prochaines années, c'est la Cour des comptes qui le dit. On ne peut pas critiquer les politiques qui n'arrivent pas à faire de compromis si nous-mêmes, on n'arrive pas à trouver un compromis. Donc moi, je pense qu'on va y arriver. Déjà, en proposant des mesures pour retrouver un équilibre court terme, notamment
un équilibre financier,
en tenant compte de plusieurs points. Le premier, c'est que, on l'a dit tout à l'heure, les entreprises sont les premières taxées. Entreprises et salariés sont les plus taxés aujourd'hui, donc il ne faut pas taxer encore plus les entreprises et les salariés, mais il y a des sujets de pénibilité que les syndicats salariés nous demandent de voir, et c'est légitime, donc il faut voir ces sujets-là.
Vous êtes prêt à rouvrir ce dossier et à rouvrir le sujet des critères de pénibilité qu'on pourrait prendre en compte ?
Bah, sur la discussion globale, il est important de tenir compte de tous les sujets qui aujourd'hui ont été mis en avant, donc notamment la pénibilité. Il ne faut pas toucher au coût du travail, et quand je dis le coût du travail, c'est également le niveau de prélèvement sur les salaires. Je veux dire pour les salariés, donc les cotisations salariales, la pénibilité par rapport aux femmes. Donc il y a un ensemble de sujets à trouver, mais en garantissant l'équilibre du régime de retraite. Donc il faut aller plus loin que la réforme des retraites par rapport à l'équilibre du régime de retraite. Ensuite, il faut avoir une vision plus long terme, parce qu'on va avoir un déficit qui va augmenter dans les années qui viennent. Et pour ça, les politiques nous ont montré qu'ils ne peuvent pas gérer un système de retraite, parce qu'un système de retraite se gère en permanence en se pilotant pour avoir un équilibre entre les dépenses et les recettes. Or, le sujet des retraites est un sujet qui est trop politique. Est un sujet que les personnels politiques n'arrivent jamais à prendre en main, parce qu'à chaque fois, tous les 10 ans, on fait une réforme. chaque fois, ça met la France dans la rue, et après, on n'y touche plus pendant 10 ans, alors que la réforme, la retraite devrait se piloter en permanence.
Mais donc, alors, vous êtes en train de me dire quoi ? Vous êtes en train de me dire que, par exemple, vous voulez reprendre le pilotage ?
Du régime général des salariés du privé. Donc, nous, partenaires sociaux, aujourd'hui, on gère les complémentaires. On gère les complémentaires avec l'Agirc-Arrco, 90 milliards de réserves. On a des bénéfices, en général, chaque année, où au moins on équilibre, ce qui nous permet d'avoir toujours un régime de retraite pour les complémentaires qui est équilibré sur le long terme.
Mais c'est peut-être plus simple de gérer l'Agirc-Arrco que le régime général.
Non, ce n'est pas plus simple. C'est juste que, partenaires sociaux, on arrive, lorsqu'il faut prendre des mesures courageuses, on arrive à le faire. Alors que les politiques, on en parlait tout à l'heure par exemple, par rapport notamment à tout le débat qu'il y a eu sur l'abattement de 10%, dès qu'on parle de contribution des retraités aujourd'hui, le personnel politique n'a pas le courage de le faire. Et ben, nous, partenaires sociaux, on est capable aujourd'hui, et on le montre sur les retraites complémentaires, on est capable de piloter le régime général du salarié du privé en ayant une règle d'or, donc ça veut dire pas de déficit autorisé, et en permettant justement de résoudre ce problème qui est ces 350 milliards de déficit qui, si on a ce déficit, on ne pourra pas financer qui ?
Mais qui vous... Oui, mais qui... Non, mais attendez, qui vous suit ? Vous me dites, on peut arriver à un... Là, tout, autour de la table, en ce moment, tout le monde est d'accord ? Le MEDEF, la CFDT, pour ne parler que des plus gros, on va dire, dans le conclave ? Écoutez, et vous êtes la CPME.
Vous l'avez dit, il nous reste encore un mois de négociation. Moi, je vous fais le pari qu'on arrivera à trouver un accord sur tous ces points-là.
Et l'âge de départ à la retraite, pour parler du plus court terme. On a compris que les 62 ans, ça ne serait pas au bout du chemin. Vous pouvez arriver à 63 ans à trouver un accord là-dessus ?
Moi, je pense que le sujet de l'âge de départ à la retraite doit être dépolitisé. Ça veut dire qu'il faut arrêter d'en faire un sujet majeur tous les 10 ans de réforme des retraites. Ce que nous, on propose à la CPME, c'est de l'indexer sur l'espérance de vie. Donc, de prendre un point de départ, et peut-être que ce point de départ, ce n'est pas 64 ans, mais une fois qu'on l'a pris, on ne revient plus dessus et on l'indexe sur l'espérance de vie, ce qui fait qu'à chaque fois qu'on a des gains d'espérance de vie, y a une partie qui est mise sur le travail, donc en décalant l'âge de départ à la retraite, et une partie qui est mise sur le temps de retraite. Mmh. Et donc ça permettrait de ne plus avoir ce débat à chaque fois. Et il y a un quart des pays au niveau de l'Union européenne qui le font, donc ce n'est pas délirant de dire qu'à un moment donné, quand l'espérance de vie augmente, c'est normal de travailler un peu plus.
La capitalisation ? Vous en avez parlé cette semaine. Alors ça, c'est vraiment le serpent de mer du débat sur les retraites. Est-ce que là-dessus aussi, avec les partenaires sociaux autour de la table dans le conclave, vous pensez que vous pouvez avoir un accord ?
Bien sûr. Et d'ailleurs, si on écoute les positions des syndicats de salariés, beaucoup disent que ce n'est pas un tabou.
Pour une raison obligatoire ou supplémentaire ? Obligatoire ou pas ?
Obligatoire,
ça c'est vous. Ça c'est vous.
Bien sûr, parce que si elle n'est pas obligatoire, en fait, elle existe déjà aujourd'hui, la capitalisation. Beaucoup de salariés, notamment dans les grands groupes, ont des contrats de capitalisation, ont des plans épargne-retraite, donc ça existe déjà, nous, ce qu'on dit. Et d'ailleurs, elle est déjà obligatoire, collective, pour les fonctionnaires, puisque tous les fonctionnaires, aujourd'hui, ont une partie de leur retraite, très, très petite, mais une partie de leur retraite qui est par capitalisation. Nous, ce qu'on dit, c'est quoi ? C'est qu'il faut permettre d'avoir, en complément du système de retraite par répartition, et je dis bien en complément, on ne dit pas que ça va remplacer la retraite par répartition, en complément, un système de retraite par capitalisation qui a montré, et l'expérience le montre, qui a montré que les rendements sont supérieurs au taux de retraite par répartition, et qui permettra aux partenaires sociaux, et je dis bien aux partenaires sociaux, c'est nous qui piloterons ce régime de retraite, d'investir dans l'économie française, d'avoir un fonds, comme un fonds de pension, qui investit dans l'économie française. L'idée, c'est pas d'aller mettre notre argent dans la bourse américaine, c'est de le mettre sur l'économie française, sur les PME, sur les territoires.
Alors, Amir Reza Tofighi, transition avec les États-Unis. On a Emmanuel Macron qui a demandé aux entreprises de suspendre leurs investissements aux États-Unis. Éric Lombard, le ministre de l'économie, qui appelle les entreprises au patriotisme. Les grands patrons n'ont pas l'air d'entendre tout à fait. Bernard Arnault de LVMH critique les bureaucrates de Bruxelles. Patrick Pouyanné de Total fustige l'état profond. Nicolas Hieronymus de L'Oréal évoque la possibilité de relocaliser une partie de la production aux États-Unis. Les PME, elles entendent ou pas le patriotisme ?
Bien évidemment, moi ça fait, depuis que j'ai été élu président de la CPME, donc ça fait un peu plus de 3 mois, je répète tous les jours que l'entreprise a un rôle sociétal. On participe par exemple à la transition écologique, on parlait tout à l'heure des sujets de prévention, et donc moi le patriotisme économique, je l'entends très bien. Je pense que le message que portent ces grands chefs d'entreprise, c'est quoi ? C'est dire que nous, on est prêts à avoir un patriotisme économique, mais ça doit être réciproque. On ne peut pas en même temps avoir un patriotisme économique quand l'État nous le demande, et ne pas avoir l'impression que l'État ou l'Union européenne nous protège. Je vous donne un exemple tout simple. Aujourd'hui, on a un continent qui est en train de se désindustrialiser. Pourquoi ? Parce qu'on a des pays, la Chine, les États-Unis, qui investissent dans leur économie. Et nous, qu'est-ce qu'on fait ? On met en place, par exemple, la notation extra-financière, la CSRD, où on demande aux entreprises d'avoir plus de 1000 indicateurs à remplir, ce qui est un délire bureaucratique, c'est le président de la BNP qui le dit. Un délire bureaucratique, on met des contraintes, des normes sur nos entreprises, et ensuite on s'étonne qu'il y ait des plans de licenciement, on s'étonne que les entreprises elles peuvent pas rester en Europe, et on ne protège pas nos entreprises, on ouvre nos entreprises. Moi je prends par exemple l'exemple de Temu et de Shane, aujourd'hui on a une déferlante de produits à bas coût, et on ne protège pas notre économie. Et après on s'étonne qu'à un moment donné on dise ok, patriotisme économique, mais nous on veut aussi que ce soit réciproque. Donc oui, j'entends le discours, mais j'attends que ce soit réciproque.
Mais vous vous dites qu'il faut continuer d'investir aux États-Unis ou pas en ce moment? Vous dites quoi, vos adhérents?
En quelques secondes, aujourd'hui, on voit bien que les Américains ont reculé par rapport à leur taxe douanière. Aujourd'hui, on est dans une phase de négociation. La phase de négociation, il faut créer un rapport de force. Donc, ce qui peut être bien évidemment décalé dans les investissements américains, c'était le discours de Emmanuel Macron. Moi, je dis bien évidemment, oui, il faut faire ça. Quand on peut décaler les investissements aux États-Unis, il faut le faire parce que c'est un acte de patriotisme économique qui permet d'avoir plus de leviers d'influence pour la France.
Amir Reza Tofighi, le président de la CPME, merci d'avoir accepté l'invitation d'On n'arrête pas l'écho.
Merci beaucoup.
On n'arrête pas l'écho sur France Inter.
Comme chaque dernier samedi du mois, l'écho à la page. Christian Chavagneux, quel livre va-t-on emporter pour occuper les ponts de mai?
Alors, j'ai adoré le bouquin d'Arnaud Saint-Martin, « Les astrocapitalistes, toujours plus loin, conquérir, coloniser, exploiter », c'est chez Payot. Alors, Arnaud Saint-Martin, c'est un sociologue qui est spécialiste des questions spatiales et qui est aussi député LFI, donc ça donne un bouquin vraiment original parce que le ton est LFI, mais le fond est CNRS. Alors, on va dans l'espace et on va essayer de comprendre quels sont tous les grands projets capitalistes développés aujourd'hui pour gagner de l'argent. Alors, il y a le truc complètement inutile, c'est juste le divertissement des ultra-riches, c'est envoyer des touristes dans l'espace. Et le truc le plus délirant, ou peut-être le plus utopique, si on veut être positif, c'est fabriquer l'électricité dans l'espace. Là, il faut envoyer des réflecteurs, il faut les installer, il faut les manipuler, il faut renvoyer l'énergie sur Terre. Bon, c'est un petit peu un roman de Jules Verne, mais on avance beaucoup. Je vous passe tous les autres projets. Le bouquin nous décrit bien le fait qu'on mélange des fonds des milliardaires avec des fonds publics, et sur la fin du livre, on explique le rôle de la France, un livre clair où on apprend vraiment beaucoup.
Autre conseil lecture, Christian, là, c'est le grand plaisir du retour vers le passé.
Bah, vous savez, Alexandra, que j'aime beaucoup l'histoire économique, donc je vous conseille le Conseil National de la Résistance, un programme fondateur, c'est dirigé par Claire Andrieux, c'est chez Folio Histoire, chez Gallimard. On est sur la seconde partie du fameux programme du CNR, celle qui pose les choix économiques et sociaux de la France d'après-guerre. La France, c'est le seul pays qui va cumuler les quatre grandes révolutions qui vont se passer après-guerre. La planification économique, les nationalisations, l'instauration des comités d'entreprise et la sécurité sociale. Pourquoi ? Parce que dans le groupe du CNR, la droite et la gauche ont réussi à se mettre d'accord. Il y a eu un consensus. Il y a un superbe article de l'historien Michel Margaras qui nous dit « Les idées du CNR ne sont pas de pure nouveauté. Elles sont dans l'air du temps. » Regardez la Sécu, par exemple. Roosevelt l'avait créée aux États-Unis. On en a parlé au Royaume-Uni avec Beveridge. L'OIT, l'Organisation internationale du travail, la portait. Il y a une superbe citation du général de Gaulle de 1942 en plein dans l'actualité. « La sécurité nationale et la sécurité sociale sont pour nous des buts impératifs et conjugués. » Pas l'un ou l'autre, les deux, mon général.
Christian Chavagneux d'Alternatives économiques, l'écho à la page.